Reconnaître le pôle indien du grand continent eurasiatique. Jean Parvulesco. Nos thèses géopolitiques sont désormais parfaitement connues, qui ouvrent le concept de la plus grande Europe franco-allemande, le pôle carolingien, aux espaces eurasiatiques décisionnels de la Grande Sibérie et du projet continental Grande Sibérie PCGS, du Japon et de l'Inde, à la perspective révolutionnaire totale de ce que nous avons nous-mêmes su appeler l'Empire eurasiatique de la fin. À l'heure présente, l'axe fondamental de la politique eurasiatique franco-allemande apparaît comme étant orienté, et d'une manière particulièrement accentuée avec le retour du gaullisme au pouvoir, vers l'Inde, et partant, vers les nouvelles relations spéciales, aussi actives que profondes, en train de s'établir, souterrainement encore. Mais comment faire autrement en temps de déréliction, entre la France gaulliste et l'Inde en marche vers l'émergence à terme rapprochée de son nouveau réveil national, voire de son éveil final? J'entends des relations spéciales destinées à forger en avant un autre destin du grand continent eurasiatique, un autre destin de future politique planétaire impériale de celui-ci, et dont notre génération se doit à l'heure actuelle d'assumer héroïquement la nomination tragique et toutes les charges révolutionnaires de terrain. Car, devant faire face nuptialement au pôle carolingien, il est né, à présent, le pôle indien, réminiscence de l'anabase initiatique de notre Alexandre le Grand, et de la haute lumière arienne et védique d'avant l'obscurcissement de l'être en nous, et il se développe, inexorablement, au cœur même du mystère vivant de l'histoire mondiale à sa fin. Aussi n'avons-nous plus à le cacher, des forces supérieures sont déjà à l'œuvre, dans notre camp et même hors de notre camp, des forces que l'on doit considérer, pour le moment, comme essentiellement occultes, des forces révolutionnaires mises en convergence par une nouvelle sommation polaire de l'histoire mondiale et qui, toutes, se trouvent engagées en avant dans le cadre du nouveau processus impérial planétaire dont le rapprochement franco-indien proposé, aujourd'hui, par le gaullisme visionnaire plus ou moins déjà en place à Paris, se veut le symbole ardent, la poussée d'avant-garde décisive, conçue pour qu'elle entraîne le reste, avec elle, et tout avec elle, vers les ultimes accomplissements de sa propre définition d'elle-même, et celle-ci déjà à l'œuvre, partout. Voir, à ce sujet, le travail de définition en profondeur, définition en termes de géopolitique impériale et révolutionnaire de l'actuelle histoire active du monde, auquel je me suis moi-même livré dans un récent entretien avec Marie de Rougemont, Francis Madé et Nicolas Beaujolin, entretien publié par Vouloir, Bruxelles, 1995, sous le titre « Pourquoi la géopolitique ?» ainsi que tout le faisceau d'approches géopolitiques de combat dont Vouloir s'est fait le véhicule européen privilégié, et qui se trouve en plein développement. Ainsi se fait-il que, pour nous autres, tout ce qui tend à s'opposer au projet grand continental révolutionnaire eurasiatique en cours, et plus particulièrement au rapprochement contre-stratégique transcendantal de la France et de l'Inde constituant déjà les fondations vives, irradiantes, l'axe central de toute politique grande continentale eurasiatique, actuelle et à venir, nous apparaît comme une démarche subversivement concertée contre nous-mêmes, dont il faut que nous prenions immédiatement toutes les mesures visibles et cachées, pour mieux pouvoir en neutraliser la manifestation interceptée, et l'anéantir sur place. Nous sommes en état de guerre politique totale pour la libération ontologique du grand continent et pour la domination finale du monde et de l'histoire finale du monde à sa fin, et tout ce qui fait obstacle à notre volonté impériale d'être et de liberté, à notre volonté de liberté ontologique et cosmique, doit être anéanti, et le sera en temps utile. Quelle responsabilité pour l'actuelle crise stratégique franco-indienne? La vigilance, une extrême vigilance de chaque instant, nous semble donc plus que jamais à l'ordre du jour. Car ce n'est quand même pas pour rien que le gouvernement du premier ministre indien Narasimha Rao s'est vu dans l'obligation d'annuler, au dernier moment, la réunion, prévue pour novembre 1995, de la Commission économique franco-indienne. Ce qui a également eu pour effet non seulement de suspendre la visite officielle du ministre français de l'Industrie, Yves Galland, mais aussi de bloquer le départ pour New Delhi, organisé, tout comme la visite du ministre de l'Industrie, à l'occasion des travaux de la Commission économique franco-indienne, d'une cinquantaine de grands patrons représentant les industries françaises de pointe, ainsi que de certains éléments d'encadrement du Centre national du patronat français, CNPF. L'attitude négative de la partie indienne, plus que justifiée, aura manifestement été provoquée par le fait que, à l'heure actuelle, le Pakistan négocie, très ouvertement, dans une dialectique de sidération, avec Serge Dassault et les délégations françaises à l'armement et certaines autres, l'achat stratégique, pour un montant de base qui sera sûrement à revoir ultérieurement à la hausse, d'au moins 5 milliards de francs, de 40 Mirage 2000 F armés du nouveau missile français RR Mika. Dans les milieux politico-militaires, voire diplomatiques, proches du gouvernement d'Islamabad, on prétend, et l'on va s'évertuer même à ce que cela ne tarde pas trop à se savoir, que le feu vert nécessaire, et même que tous les feux verts ont déjà été donnés par les autorités gouvernementales françaises compétentes, et que la signature définitive de l'accord final interviendrait avant la fin décembre 1995. Le fait est donc certain que, grâce au vecteur supersonique ainsi fourni par la France, New Delhi risque de se trouver bientôt à la portée immédiate d'une intervention nucléaire directe du Pakistan, située à 300 km de la frontière pakistanaise. New Delhi peut être atteinte en 3 minutes par les Mirage 2000 F supersoniques adaptés à la vectorisation des engins nucléaires pakistanais. Il faut aussi ajouter à cela que le contentieux franco-indien va se révéler déjà alourdi par la fourniture en cours, au Pakistan, de 3 sous-marins français conventionnels de la classe Agusta, armés des missiles ultra-modernes SM-39, dernière réalisation majeure de la technologie militaire française actuelle, sous-marins que les chantiers de Cherbourg ont pris en charge pour le compte d'Islamabad. Les 15 premiers stagiaires du chantier pakistanais, l'apprend-on par Le Monde, sous la signature réputée significative de Jacques Isnar, viennent d'arriver à l'arsenal de Cherbourg pour y être formés. D'ici à 1999, 240 Pakistanais passeront par l'arsenal. L'accord prévoit que le premier sous-marin sera construit à Cherbourg. La coque du deuxième bâtiment sera livrée en tronçon monté par le client. Des sections du troisième sous-marin seront assemblées dans des chantiers au Pakistan, Le Monde, 28 décembre 1995. L'actuel gouvernement gaulliste de Paris, dont nous connaissons pourtant les orientations géopolitiques et le projet grand continental révolutionnaire d'avant-garde, entendrait-il donc soutenir, ainsi, ouvertement, et en quelque sorte contre ses propres positions métapolitiques constitutionnelles de base, le dispositif d'encerclement continental de l'Inde et l'investissement stratégique de l'ensemble méridional, océanique, du grand continent, par les forces de la ligne du front islamique fondamentaliste, ligne de front supranationale, subversivement engagée, ses forces, sur l'arc de cercle allant des Philippines et du Pakistan jusqu'au Maghreb déstabilisé par le même fondamentalisme révolutionnaire, nocturne, anti-humain, et dont l'heure s'annonce aussi comme tout à fait proche, soutenue ou non par la Turquie, sur le flanc sud des espaces en refondation politique totale ayant appartenu à l'ancienne Union soviétique ou à ses zones de pénétration ou d'influence. Comme une tache douteuse sur un cadavre récemment maquillé, apparaît donc ici une très flagrante contradiction entre les grandes doctrines géopolitiques du gaullisme révolutionnaire actuellement au pouvoir à Paris, ne fût-ce qu'en la personne de Jacques Chirac, le gaullisme foncièrement attaché au projet concernant le proche avenir impérial du grand continent eurasiatique et aux engagements de l'Europe à l'égard du pôle indien émergent, et les décisions subversivement aliénantes d'une administration politique indûment encore en place, non entièrement reconsidérée à cette heure, et qu'il s'agit donc de faire réglementer au plus vite. Et je préciserai, la mettre au plus vite hors de l'état de nuire. N'est-il pas, alors, de notre devoir de publier, ouvertement et tant qu'il est encore temps, une contradiction qui en l'occurrence nous semble des plus troublantes, voire des plus suspectes, et, surtout à suspecter? Or c'est bien ce que nous faisons. Nous suspectons certaines instances administratives en place soit d'inadvertance manifeste et dans tous les cas coupables dans la conception même de leurs initiatives, soit de haute trahison car, n'est-ce pas, comment appeler autrement le fait de servir les intérêts d'une puissance étrangère mobilisant sa volonté de domination planétaire contre les plus hauts intérêts politico-révolutionnaires nationaux et grands continentaux eurasiatiques de la France ? Et d'autant plus troublante, cette soudaine obstaculisation de la politique grande continentale eurasiatique commune de la France et de l'Inde que les deux portes de verrouillage et de contrôle du flux des décisions administratives supérieures de l'État français, Le secrétariat général de la présidence de la République et la direction de cabinet du Premier ministre se trouvent entre les mains de, respectivement, Dominique de Villepin et Emery Segourdeau-Montagne, tous deux des diplomates de carrière ayant effectué des longs séjours en Inde, dont ils connaissent les problèmes actuels, et que l'on connaît comme entièrement acquis à la cause de l'Inde et à la ligne indienne secrète qu'avait en son temps définie, pour ceux du premier cercle, le général de Gaulle lui-même. Il nous reste à tirer au clair le contexte profond où s'est développée cette troublante affaire, et, surtout, ce qui se dissimule spectralement derrière celle-ci, dans une succession de faux fonds encore plus troublantes, obscures et mortelles. Les États-Unis poussent la Chine contre le bloc eurasiatique. Car, en Asie, la terre brûle. Les feux des volcans souterrains de l'histoire grondent à nouveau, les invisibles digues de la paix menacent de voler en éclats. L'avènement au pouvoir, à Paris, d'un président de la République incarnant une nouvelle remontée du grand gaullisme révolutionnaire et, de par cela même, la soudaine réactivation politico-stratégique du pôle carolingien et des projets grands continentaux eurasiatiques véhiculés par celui-ci, a forcé les États-Unis à y répondre par une contre-offensive du même niveau planétaire. Aussi le premier objectif de l'actuelle contre-offensive anti-européenne de Washington apparaîtra-t-il comme étant celui d'installer d'urgence un contre-feu grand continental eurasiatique en s'engageant à soutenir une nouvelle émergence politico-militaire de la Chine pour faire pièce, sur le front sud du grand continent, aux mobilisations en cours du Japon, de l'Inde et de la Russie sibérienne dans le cadre de la nouvelle unité continentale promue par l'Europe du pôle carolingien. De même que, avec la guerre du Golfe, les États-Unis avaient déjà essayé de couper l'Europe de l'Ouest de ses sources d'approvisionnement pétrolier les plus immédiates. Les États-Unis comptent à présent tourner la future identité impériale du grand continent eurasiatique par le Sud, en exacerbant, sur le terrain, le fondamentalisme révolutionnaire islamique tout en faisant semblant, dialectique opérationnelle du leur, de le combattre à outrance. Une des stratégies opérationnelles spécifiques de la CIA, et autres agences assimilées, exige, en effet, certains l'ont quand même bien compris, que, lors de la mise en marche de toute grandement œuvre politico-stratégique d'ensemble, l'exhibition préliminaire soit prévue d'un écran diversionnel et de contre-assurance, à l'instant même où Washington décide de soutenir la formidable révolution islamique fondamentaliste naissante. Les agences de désinformation active de la CIA s'arrangent pour que par la voie des médias sous contrôle ou par des canaux diplomatiques à couvert l'on apprenne que les États-Unis s'engagent à fond dans le combat contre la subversion fondamentaliste planétaire, envisageant de conduire des opérations de déstabilisation intérieure en Iran. Un nouveau budget de 20 millions de dollars a même été officiellement approuvé, le 21 décembre 1995, par la Chambre des représentants, pour modérer, par des voix plutôt spéciales, ce que le speaker Neil Gingrich appelle, lui, et d'ailleurs à juste titre, la menace permanente pour la vie présente sur cette planète venant de la part d'un État terroriste, et se tera. D'une manière analogue, la même stratégie du leur, de l'écran en dédoublement diversionnel, au moment précis où Washington avait décidé son opération de déstabilisation intérieure du nouveau pouvoir gaulliste grand européen en place à Paris. Déstabilisation envisagée par l'exacerbation de certains conflits sociaux d'envergure, de nature de plus en plus ouvertement insurrectionnelle, visant jusqu'à la rupture intérieure même de la société française actuelle, des conflits, par ailleurs, manigancés et conduits, secrètement, sur le terrain, par des éléments de la CIA opérationnellement détachés sur Paris et sur toute la France, la CIA montait, en plus, une action d'écran préventionnel où certains de ces éléments, plus ou moins déjà brûlés, étaient sacrifiés à dessein, et ce sur des indiscrétions directement filtrées depuis l'ambassade des États-Unis à Paris, dans la cadre d'un montage obligeant quand même les structures françaises de sécurité à procéder au démantèlement d'un soi-disant réseau américain. Fabriqué de toutes pièces, un fantasmagorique réseau américain de renseignement, de pénétration et d'influence à couvert des milieux gouvernementaux et diplomatiques parisiens, en somme le double en faux du vrai lui aussi là, mais celui-ci profondément secret, est déjà prêt à servir, à passer à l'action. De manière à ce que, ultérieurement, et pour être plus précis à la veille même du déclenchement des grèves insurrectionnelles organisées, en France, en décembre 1995, par l'Asia agissant à travers ses entrées spéciales à force ouvrière et au sein aussi de certains clans dormants de la nébuleuse trotskyiste, Washington puisse annoncer, officiellement, que l'Asia se serait vue intimée, sur disposition supérieure, de renoncer immédiatement à toutes ses activités de renseignement ou d'influence à couvert en territoire français. Enfin, du point de vue de l'impérialisme planétaire grand océanique des États-Unis, la mission géopolitique dérivée de la Chine happée par leur propre dispositif d'intervention vers le cœur du grand continent eurasiatique devient ouvertement une mission anticontinentale, de poussée divergente et déstabilisatrice, mettant directement en danger les passions communautaires grand continentales de l'Inde, du Japon, de la Grande Sibérie. Et ne l'oublions pas, la nouvelle émergence politico-militaire de la Chine en tant que superpuissance eurasiatique et planétaire devant faire contrepoids au projet européen pour l'engagement révolutionnaire impérial du grand continent passe, aujourd'hui, par la normalisation, dans le sens bourdieu du terme, le bon, que l'on avait si parfaitement su exploiter, le bel été 1968, à Prague, de l'ensemble de la situation politique du sud-est asiatique et, surtout, par l'intégration forcée, à brève échéance, de la province renégate de Taïwan. D'où le formidable regain des mouvements de force en remontée, encore indéchiffrable, des activités politico-militaires souterraines dans tout le sud-est asiatique, mouvement dont le Pakistan sous l'invisible contrôle américain, représente aujourd'hui la plateforme opérationnelle décisive, lieu de rencontre et de compétition révolutionnaire des poussées américano-chinoises et américano-islamistes, en attendant que le troisième terme américain finisse par devenir lui-même invitation à un choix non dialectique, et comme le butoir même de la déflagration finale. Et que revive le pôle du soleil levant. De toute évidence, c'est bien pour répondre au retour en force de la Chine sur la scène de l'histoire actuelle du grand continent que le Japon a déjà dû prendre confidentiellement une série de contre-mesures en projet qui, par des paliers successifs, ont fini par faire que, aujourd'hui, l'Empire du Soleil Levant, ce que nous appelons le pôle du Soleil Levant de notre futur empire eurasiatique de la fin, dispose du deuxième budget militaire national de la planète, immédiatement après les États-Unis. D'autre part, Tokyo est à l'heure actuelle en train de procéder, vu la situation de plus en plus dramatiquement préoccupante dans la région, où la Chine ne pourra désormais plus ne pas agir ou, comme on dit, ne pas commettre l'irréparable à l'intégration accélérée en une seule structure opérationnelle sommitale des services de renseignement politico-militaire des trois armées, moins terre, air, mer de l'état-major général, et du ministère de la Défense. En même temps, émanation directe du sommet intégré des services de renseignement militaire, une délégation spéciale, permanente et secrète va prendre sous son contrôle immédiat la direction générale du nouvel ensemble en préparation des services civils de la sécurité. Des informations de sources tout à fait certaines et amies font en effet état non seulement d'une très prochaine réorganisation en profondeur de l'ensemble des forces civiles de la sécurité nationale, mais aussi de la mise sur pied, en urgence, de nouvelles structures de renseignement politico-opérationnelles se situant à des niveaux inhabituels, polarisés par les dialectiques spéciales de la guerre secrète, voire la guerre occulte et les zones d'investissement social et des influx politiques et culturels clandestines de celles-ci. De tous ces changements en cours, une assez vertigineuse signification semble se dégager, qui concerne en premier lieu le renouveau intérieur de notre pôle du soleil levant et sa nouvelle émergence impériale actuelle, eurasiatique et planétaire. Le retour, au Japon, des forces armées au premier plan du pouvoir politique agissant ne saurait cependant pas être fait ni même envisagé, on le comprendrait à moins, sans l'appel à une couverture tout à fait massive des forces civiles nationales. Ainsi la désignation à la tête du Parti libéral-démocrate PLD, de Ryutaro Hashimoto, vice-premier ministre, en charge du MITI, ministère du commerce international et de l'industrie, l'homme de la ligne nationale et impériale japonaise la plus intransigeante face aux États-Unis, ainsi que l'élection, le 27 décembre dernier, d'Ikiro Ozawa, à la direction du parti de la nouvelle frontière, le Shinshito, doctrinaire d'une réconsidération totale de la place actuelle du Japon dans le cadre de la nouvelle politique planétaire, prennent-elles soudaine une importance qui dépasse de loin le seul plan des affaires politiques intérieures nippones, pour rejoindre la zone décisive suprême où émerge à nouveau le pôle du Soleil levant et ses grandes missions eurasiatiques et planétaires. D'ailleurs, dans l'ombre, les jeux sont faits. En avril 1996, ce sera bien Ryutaro Hashimoto qui sera le nouveau premier ministre du Japon, le douteux et néfaste Tomiichi Murayama, socialiste, devant passer à la trappe. Ou, peut-être, tout de suite. Les retrouvailles de Jacques Chirac en tant que chef de l'État français, avec le Japon, porteront donc Jacques Chirac, en juin prochain, à la rencontre de Ryutaro Hashimoto, l'homme du grand renouveau, tout comme, pour sa nouvelle rencontre avec l'Allemagne, le nouveau chef de l'État français s'est porté à la rencontre de Helmut Kohl, à Baden-Baden, en décembre 1995, où s'est faite la nouvelle Europe. Jacques Chirac et Helmut Kohl, à Baden-Baden, décembre 1995. Or cette même évolution polaire au sein des services de renseignement militaire, interceptée au Japon, est très vite apparu en Europe aussi, à la suite de la réunion franco-allemande au sommet ayant eu lieu en décembre 1995 à Baden-Baden, entre Jacques Chirac et Helmut Kohl, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont à leur tour décidé la mise en piste d'urgence d'une communauté polaire de l'ensemble des services de renseignement militaires européens, le noyau dur des quatre de Baden-Baden devant aussi assurer, par la suite, l'accueil des autres services de renseignement militaire des pays intégrant la plus grande Europe. En plus, lors de cette même réunion franco-allemande de Baden-Baden, il a été également décidé de la mise en commun de l'aérospatiale française et de la DASA allemande, DASAC, Daimler Benz Aerospace, dans le cadre d'un vaste programme européen pour l'industrie des missiles, des satellites et de la poursuite des projets spatiaux grands européens. Ce programme prévoit la mise en œuvre immédiate du satellite espion à infrarouge Zelioi, 12 milliards de francs, et du satellite espion à radar Oru, 13 milliards de francs. L'exécution de ces premiers programmes sera confiée, simultanément, aux usines allemandes de Friedrichshafen et aux établissements industriels français de Cannes. En fait, c'est bien le 8 décembre 1995, à Baden-Baden, que le noyau politico-militaire originel de notre futur empire eurasiatique de la fin est né, et que la saison de Yalta a véritablement pris fin. C'est depuis ce jour-là que nous sommes libres. Baden-Baden c'est en tout état de cause le contre-Yalta, le triomphe final de l'Europe face à la conspiration géopolitique négative des puissances extérieures. Ce jour-là, c'est la vérité de notre propre vérité qui nous a donc rendus libres, et les pouvoirs de projection historique directe de cette vérité déjà agissante là, déjà à l'œuvre. Tombé, à Yalta, sous la domination des puissances extérieures dont, en premier lieu, les États-Unis et l'Union soviétique, ainsi qu'en en subissant, dans l'ombre, le terrible assujettissement aux puissances occultes se tenant derrière celles-ci et les manipulant à des fins encore et toujours inavouables. L'Europe, la plus grande Europe, retrouve donc à présent sa place dans la nouvelle histoire révolutionnaire du monde, et sa souveraineté entière, à Baden-Baden, où, tout comme le général de Gaulle avait donné à la France sa liberté nucléaire, Jacques Chirac a donné à l'Europe sa liberté spatiale et supraspatiale ultime. Ainsi voit-on qu'il n'y a de liberté que militaire, qu'il n'y a de liberté qu'impériale. Quelque part, tout se passe comme si, forcé par les délais de la contrainte extérieure et les circonstances négatives intérieures que l'on vient de voir à l'œuvre, Jacques Chirac a compris que, pour faire l'Europe, la grande Europe, en temps encore utile, ce n'est pas l'Europe économique, ni même l'Europe politique, voire l'Europe des cultures qu'il faille envisager de faire, mais l'Europe militaire. Idée impériale s'il en fut, à laquelle tous les partenaires européens de la France et l'ensemble des pôles de soutènement de la future grande entité impériale eurasiatique moins, le Japon, l'Inde, ne peuvent pas ne pas répondre immédiatement, et idée par laquelle la France y trouve automatiquement sa place centrale, décisive, sa place prédestinée. C'est l'idée pour laquelle il fallait se battre à mort. Et c'est pourquoi Jacques Chirac s'est battu à mort. Avec, à ses côtés, Helmut Kohl, jusqu'à la fin. L'Europe militaire, c'est l'Europe de l'espace. Pour que l'on puisse se rendre compte de la portée profondément cachée, inavouable, des enjeux régis par la rencontre et les décisions au sommet pris en décembre 1995, à Baden-Baden, par Jacques Chirac et Helmut Kohl, il suffit de savoir que le fort suspect John Deutsch, directeur démocrate de la CIA démocrate de Bill Clinton, s'est lui-même déplacé, par quatre fois, à Bonn, pour essayer de dissuader Helmut Kohl de suivre Jacques Chirac dans ses projets métapolitiques visionnaires concernant le grand continent eurasiatique commis en chantier par le gaullisme révolutionnaire. De son côté, Bill Clinton n'a pas hésité à téléphoner lui-même, à plusieurs reprises, à Helmut Kohl, auprès duquel il dépêcha aussi, au moment culminant, l'étrange secrétaire d'État Richard Holbrooke, l'homme sans bagage et de tous les chantages. Mais rien n'y fit. La vision gaulliste révolutionnaire entend Jacques Chirac, la vision de la plus grande Europe et de ses futures destinées impériales eurasiatiques, et la résolution inspirée, fidèle et géniale, allemande, de Helmut Kohl, sont parvenus, ensemble, à donner un nouveau commencement à l'histoire européenne du monde et aux destinées planétaires de l'Europe interdites d'histoire depuis 1945. En décembre 1995, grâce à Jacques Chirac et à Helmut Kohl, une nouvelle superpuissance planétaire est née, la plus grande Europe, mobilisant, pour commencer, 400 millions d'hommes et se trouvant déjà en mesure d'aligner une puissance politico-militaire, économique, démographique et culturelle face à laquelle les États-Unis se retrouvent dans une situation de seconde, voire de troisième position, situation que Washington et les tenants de la puissance américaine intérieure, occulte, sont loin de pouvoir accepter, même devant le fait accompli. La troisième guerre mondiale est donc en principe là. Il est donc grand temps que la communauté polaire des renseignements militaires de l'Europe de l'Ouest, dont les buts plus proprement politiques sont encore tenus sous réserve, puisse passer au stade suivant, déjà. Stade où, dans la perspective de ce que nous appelons, nous, le projet de l'Empire Eurasiatique de la fin, cette communauté polaire du renseignement militaire européen vienne à intégrer, aussi, les représentations au sommet des services analogues de la Russie, du Japon et de l'Inde. Apostrophe la quatrième clé de voûte. On voit bien à présent par où passe la ligne de front. Toujours indiscernable pour les regards non prévenus, un même ennemi, toujours le même, se tient à l'affût derrière tout ce qui s'oppose à l'actuelle volonté impériale grande européenne de la France gaulliste et de ceux qui se sentent appartenir à la même communauté de haut destin, appelée par la même mission secrète suprahistorique. Les grèves insurrectionnelles antinationales et anti-européennes de décembre 1995 en France, le sabotage des relations stratégiques de la France avec le pôle indien porte, nous nous en sommes quand même aperçus à temps, les traces corrosives de la même griffe. Il faut seulement réapprendre à voir, toutes les grandes batailles vont être, désormais, comme toutes les guerres vraiment grandes, de plus en plus occultes, de plus en plus situées dans les territoires de l'invisible. Il faudra donc que nous nous y fassions, et tout de suite. Ainsi, laissant brutalement de côté les prétextes de diversion nécessaires à la circonstancialisation de toute manœuvre poursuivie jusque sur le terrain, les grèves insurrectionnelles françaises de décembre 1995 n'avaient en réalité qu'un seul but, un but qui expliquera les étranges complicités de fait dont celles-ci avaient bénéficié de la part de qui l'ont su attendu vraiment le moins, car, en réalité, ce but stratégique de pointe était celui de saboter, sur le coup même, et en même temps d'installer les conditions d'une continuité de cette même action de sabotage dans le futur. L'actuelle politique totale d'intégration grande européenne de la France gaulliste est partant d'empêcher la naissance de ce que Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, appelait, dans son extraordinaire entretien avec le Figaro du 20 décembre 1995, la Nouvelle Europe. Hervé de Charette, pour la première fois de notre histoire, nous allons réaliser l'unité de notre continent. Ce sera mieux que Charles Quint. Dans le Figaro encore, Michel Massenet, conseiller d'État, écrivait bien clairement, le 18 décembre dernier, au sujet de Marc Blondel, le leader faux, vise l'Europe au cœur, et il le sait. Mais nous aussi on le sait. Or tout cela devient d'une gravité ultime, dramatique, provocante, mais incontournable aussi, quand on a compris que dans les plans des agitateurs conspirationnels socialo-communistes et trotskistes le mois de janvier 1996 les masques devront tomber, tous, et que les mouvements insurrectionnels soi-disant syndicalistes vont se présenter ouvertement comme un front social uni contre l'Europe, contre l'Europe et pour l'emploi, et se taira. Il faudra donc faire le nécessaire. Car ces rassemblements de toutes les conspirations, de tous les complots anti-français et anti-européens mobilisés pour appuyer le grève insurrectionnelle de janvier devront alors être tirés au clair, et il y aura dans ce cas des surprises exécrables et immenses à faire prendre en compte même chez certains de nos plus proches amis. L'histoire de France s'apprête à devoir vomir un long passé de ténèbres, et ce sera son rituel vomito negro, toutes les boues noires de l'ancienne tragédie française et le grand renouveau salutaire. D'autre part, nous avons tenu à situer dans son contexte profond l'actuel sabotage des relations stratégiques franco-indiennes. Point n'est-il donc besoin d'insister pour que l'on comprenne que, dans l'horizon dialectique de cet ensemble de considérations finales, l'inconcevable dérapage administratif français convaincu de fournir à un État qui, comme le Pakistan, appartient à la ligne de front des puissances subversivement engagées contre la France et contre la totalité agissante de la grande politique eurasiatique de la France gaulliste, du matériel stratégique hautement significatif, destiné à assumer un rôle singulièrement décisif dans les déroulements prévisibles d'une crise désormais sans doute prochaine, devient, en quelque sorte symboliquement même, une action dont il faut signaler, et produire, aussi, en direction de nos compagnons et camarades du régime gaulliste révolutionnaire actuellement en place à Paris, le suivi des culpabilités cachées, les mesures d'arrêt et de démantèlement de l'opération en cours, défaire donc par fidélité ce qui a été fait ou a failli se faire par trahison, envisager les sanctions exigées ne fût-ce que par l'extrême gravité des enjeux et de l'heure. Telle est notre tâche, notre devoir et notre volonté d'être là, précisément, où nous appellent les missions qui sont nôtres. La sécurité politico-révolutionnaire qu'une entreprise géopolitique continentale de la taille de celle dont nous nous voulons et nous sommes l'avant-garde idéologique et activiste ne se divise pas, de même que ne se divise le principe agissant de l'impérium dont nous annonçons le prochain avènement et dont le pôle indien est la quatrième clé de voûte, la clé de voûte tournée vers la lumière antérieure de notre propre être, de notre plus haute conscience révolutionnaire et impériale à venir.